Vivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un sujet assez complexe que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui dans notre émission. La consanguinité et ses conséquences sur la santé. Pour comprendre quels peuvent être les risques en termes de développement physique et mental chez les enfants nés de l'union de deux parents issus à divers degrés de la même famille. Ces mariages consanguins peuvent-ils être considérés comme des facteurs avérés de maladies génétiques ou de troubles caractéristiques? Cette question des unions consanguines est considérée de manière très différente en fonction des cultures, des régions et des époques. Différences que l'on retrouve aussi en termes de réglementation, d'interdits ou de tolérance, voire même de coutumes en fonction des pays concernés. Un sujet à la lisière, c'est ce que nous allons voir, de plusieurs disciplines, la médecine génétique mais aussi l'anthropologie. Au cours de l'histoire, certaines lignées royales ont privilégié, pour des raisons politiques ou stratégiques, les unions consanguines donnant naissance, génération après génération, à des descendants qui se ressemblent souvent pour le pire. Maladies familiales, des troubles de croissance, infertilité, risque accru de mortalité infantile. Aujourd'hui, il sera question de mutation, de transmission, mais aussi de sensibilisation pour essayer d'informer au mieux sur des risques parfois évitables. Degré de parenté, certaines pathologies sont-elles particulièrement associées à la consanguinité? Les risques liés à la consanguinité expliqués par la génétique? Nous sommes en ligne avec le professeur Arnold Munich. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre généticien à l'hôpital Necker Enfants Malades à PHP à Paris, Institut Imagine également où vous exercez et président de la Fondation Imagine. Anthropologie, culture, génétique, nous donnerons tout à l'heure la parole à André Langanet, spécialiste en génétique des populations humaines, professeur honoraire au département génétique et évolution de l'Université de Genève. Et puis en fin d'émission, on retrouvera la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport.
Priorité santé sur RFI.
Je disais à l'instant, en commençant, sujet assez complexe, on ne va pas se le cacher, à certains égards délicat à traiter car il est question de famille, de santé, mais aussi de culture, d'engagement. Nous allons vous donner la parole à vous, scientifiques, comme à des témoins, auditeurs, qui ont tenu à parler de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils vivent. Mais tout d'abord, pour fixer bien les choses, la génétique, c'est la base, en essayant bien sûr d'être le plus clair possible, même si parfois c'est un petit peu compliqué. Professeur Arnold Munich, est-ce qu'il arrive de recevoir en consultation des couples de cousins, par exemple à l'hôpital Necker où vous exercez, des couples qui ont un projet d'enfant, mais ils viennent s'informer du risque potentiel de malformation, par exemple. Il faut voir s'il y a des inquiétudes précises.
Absolument. D'abord, je vous remercie de mettre ce sujet extrêmement important d'une de vos émissions. C'est une magnifique idée et je voudrais saluer l'initiative et vous remercier de cette possibilité de nous exprimer. Un grand merci d'abord. Pour répondre à votre question, oui, absolument, beaucoup de familles viennent nous voir avec des enfants malades et dont les parents sont cousins germains ou issus de germains. C'est extrêmement fréquent. On reçoit, imagine, 35 000 à 40 000 enfants par an. Il est extrêmement fréquent qu'on voit des enfants dont les parents sont cousins germains ou issus de germains. Donc cette question se pose, que vous me posez, se pose effectivement dans le cadre d'un projet d'enfant où des couples viennent se renseigner. Mais il s'impose dans les consultations où on s'aperçoit de la très grande proportion de parents consanguins de nos enfants malades. Peut-être 25 ou 30% de toute la consultation. C'est énorme.
C'est énorme. Parents... Alors, ce qu'on comprend bien, il y a deux choses. Il y a les enfants, les personnes dont l'enfant est déjà malade, et il peut y avoir des couples qui veulent concevoir un autre enfant et éventuellement écarter ce risque.
Quand vous dites un autre enfant, c'est que vous impliquez qu'un premier enfant a été malade et les parents s'en inquiètent.
Absolument.
Alors, bien sûr. Alors, dès lors qu'un premier cas est connu dans la famille, évidemment qu'on informe les couples d'abord de la meilleure façon de traiter l'enfant malade, qui fait l'objet de tous les soins, mais également de prévenir la récidive. C'est les deux. S'occuper de l'enfant qui est devant nous et éviter que ça se reproduise. Dès lors qu'il y a un premier cas, on est averti, on a la puce à l'oreille et on propose le conseil génétique, éventuellement un diagnostic pendant la grossesse, ce qu'on appelle le diagnostic prénatal, pour s'assurer très tôt de l'absence de risque. Mais votre question, elle est aussi très importante pour les couples consanguins qui n'ont pas encore un enfant malade. C'est avant le premier enfant malade. Pour reprendre une parole de père, un jour, un père est venu avec cette question. Il m'a dit, je voudrais faire l'économie, entre guillemets, l'économie d'un premier enfant malade. Ça heurte un peu, cette expression.
Et parce qu'il avait connaissance dans sa famille qu'il y avait des précédents, des risques existants.
Il savait qu'ils étaient consanguins. Il savait que d'autres familles, également consanguines, avaient eu des misères. Et il me disait, docteur, comment faire pour éviter la survenue d'un premier enfant atteint? Et c'est un enjeu extrêmement important qu'on a porté à l'attention des ministres de la Santé qui ont supervisé la révision de la loi bioéthique. Le comité consultatif national d'éthique s'était prononcé en faveur de la possibilité de dépister les porteurs sains de maladies génétiques dans les familles, en particulier consanguines, et cette possibilité a été refusée. Et la loi qui est actuellement au Parlement français ne comporte pas les propositions de dépistage des porteurs sains de maladies génétiques, en particulier dans les familles consanguines. Donc vous voyez, c'est très important. L'obscurantisme, il n'est pas d'un seul côté, madame.
Le refus de donner cette sécurité sanitaire aux enfants à naître.
Bon. Vous savez, tout le monde devrait balayer devant sa porte. Les obscurantistes, ce n'est pas forcément ceux qui sont de l'autre côté de la table. Nous avons aussi nos points aveugles. Et je déplore solennellement que des décideurs politiques de très haut niveau ne comprennent pas l'importance de faire en France et en Afrique ce qui se fait dans d'autres pays d'Europe, c'est-à-dire le dépistage des porteurs sains de maladies génétiques, en particulier les plus fréquentes.
Les plus fréquentes, vous pensez par exemple à la drépanocytose?
Alors, je m'adresse et je salue un auditoire qui m'est cher, qui est celui de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique en général, de l'Afrique du Nord. Eh bien oui, bien sûr que la consanguinité, elle est, vous le rappeliez en introduction, culturelle dans de nombreux pays d'Afrique, pour de multiples raisons. Et effectivement, il y a des maladies consanguines, résultant de la consanguinité, qui sont plus fréquentes que les autres. La première de toutes, c'est la drépanocytose, qui justifie trois questions de nos auditeurs tout à l'heure. Alors, juste un tout petit mot sur la drépanocytose, c'est qu'il y a non seulement l'impact de la consanguinité, mais il y a aussi la pression de sélection qu'a exercée le paludisme en Afrique de l'Ouest. Vous connaissez l'histoire.
Absolument.
Le paludisme, il a sélectionné, c'est-à-dire qu'il a permis aux porteurs sains de drépanocytose de survivre alors que les sujets intèmes étaient décimés. Donc, c'est pourquoi il y a tellement de drépanocytose en Afrique de l'Ouest et Afrique sous-saharienne, c'est que les drépanocytaires, les patients qui avaient la maladie, mais a fortiori ceux qui étaient porteurs sains,
qui avaient le trait drépanocytaire,
ou le trait drépanocytaire, ceux-là étaient protégés contre le paludisme pour des raisons intéressantes que la science a expliquées, mais ils résistaient, ils survivaient, alors que les autres étaient décimés.
Professeur Munich, on va revenir à votre spécialité pour qu'on explique bien aux auditeurs, parce que peut-être que certains d'entre eux découvrent le sujet aujourd'hui, et c'est le cas de l'un d'eux qui nous appellera tout à l'heure. Il a vu dans l'émission Consanguinité, il est allé chercher, il a dit mais c'est moi, ça parle de moi, ça parle de mon histoire. Est-ce que le degré de proximité familiale, c'est déterminant justement par rapport à ces anomalies génétiques possibles? Plus on est proche, plus il y a un risque.
Merci de poser la question en termes simples comme vous le faites. D'abord, de quoi parle-t-on? On parle de la transmission de notre patrimoine génétique de nos parents à nos enfants. Qu'est-ce qui se passe? Quand on fait un enfant, on lui donne la moitié de nous-mêmes. On coupe notre patrimoine génétique en deux et on lui donne la moitié de ce qui va faire un petit homme. Donc on hérite de ses parents la moitié de son patrimoine génétique, de son père, et la moitié de sa mère. 30 000 gènes de papa, 30 000 gènes de maman. Donc chacun d'entre nous, nous sommes coupés en deux génétiquement et nous donnons la moitié de nous-mêmes à nos enfants, 30 000 gènes paternels, 30 000 gènes maternels. Si un de ces gènes, porte une mutation et qu'on épouse son cousin germain, un de ces gènes, n'importe lequel des 30 000, si je suis porteur d'une mutation sur un de mes 30 000 gènes, la probabilité que ma cousine germaine avec qui je m'unis soient porteuses du même trait est de 15% pour chacun de ces gènes. Mmh. Je répète, si ma cousine germaine avec qui je me marie est porteuse d'une variation, ma probabilité d'être porteuse d'être porteur de la même variation est de 15%. Et dans ce cas-là, on est un couple de parents porteurs sains d'une maladie génétique, et patatras, une fois sur quatre, il y a un enfant malade.
C'est un risque réel, c'est un risque réel. Professeur Munich, on va poursuivre cet échange passionnant. On retrouve à présent André Langanet, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste en génétique des populations humaines, on parle génétique, lorsqu'un enfant est porteur de symptômes qui peuvent faire s'interroger sur son hérédité, et puis il y a l'observation des pratiques humaines, de leurs conséquences en termes de santé, c'est aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui, aussi bien ce qui se passe en France que bien sûr au-delà, partout où on écoute RFI dans le monde, et lorsqu'on s'intéresse à l'anthropologie, les liens familiaux, c'est central, hein, ces liens familiaux, André Langanet, avec des perceptions très différentes. Différentes forcément en fonction des groupes de population. Il y a des interdits, il y a des règles en matière de mariage. Est-ce qu'on sait depuis quand les humains, hein, les habitants de notre planète, ont conscience des risques associés au mariage au sein de la famille? On parle bien sûr du tabou de l'inceste. Est-ce que c'est aussi en raison des risques pour la progéniture?
Eh bien, certainement pas. Parce que dans les sociétés traditionnelles, quand les populations étaient peu nombreuses, ces risques étaient trop faibles pour pouvoir être remarqués par des observateurs, même s'il y avait eu des généticiens dans des populations de 200 ou 300 personnes, à moins de situations tout à fait exceptionnelles, ils n'auraient pas pu noter les effets de la consanguinité. Alors, les populations humaines, il faut quand même rappeler une chose fondamentale, c'est qu'elles sont toutes issues, les 7 milliards d'humains actuels, sont les descendants généalogiques d'un petit groupe d'humains chasseurs-cueilleurs qui vivaient en Afrique, quelque part en Afrique, on ne sait pas trop où, il y a une centaine de milliers d'années. Et de cette manière, nous avons un nombre d'ancêtres à cette époque qui est extrêmement limité, de l'ordre de 5000. Alors c'est vous dire que d'une certaine manière, pour rassurer un peu ceux qui sont consanguins et qui le savent, tous les humains actuels sont consanguins. C'est d'ailleurs pour cela que les populations humaines ne sont pas si différentes les unes des autres, c'est à cause de ces origines communes. Donc en face de la consanguinité que les gens connaissent, celle qui fait qu'on s'est marié par exemple avec un cousin germain, ce qui est une situation très fréquente en Afrique, il y a une autre sorte de consanguinité qui est ce qu'on appelle en jargon la consanguinité lointaine, qui vient de cette origine commune et du petit nombre d'ancêtres que nous avons. Le fait qu'au départ de notre espèce, il y a eu un petit nombre d'ancêtres fait que chaque gène de ceux de ces ancêtres qui ont eu des descendants a une certaine chance de se retrouver en double exemplaire chez un individu quelconque, arrivé soit par le père, soit par la mère. C'est ça qui fait que dans la population générale, les gènes détériorants, qu'Arnold Munich a si bien expliqué, peuvent se retrouver en double exemplaire, alors qu'on ne connaît aucune relation de consanguinité. Mais c'est une situation plutôt rare. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Si nous sommes dans une population où l'on pratique des mariages consanguin. Mmh. Et si les ancêtres de cette population sont atteints d'une ou plusieurs maladies génétiques du type drépanocytose, les mariages consanguins vont révéler la présence de ces gènes, mais en même temps, ils vont les éliminer. Ce qui fait qu'on peut avoir deux situations au bout d'un certain nombre d'années de mariage consanguin. On peut avoir la situation qu'on a observée, par exemple, dans beaucoup de villages du Québec, où des maladies génétiques rares frappent un grand nombre d'individus parce que parmi les fondateurs des villages en question, il y avait des gens qui étaient porteurs des fois d'un seul gène mutant récessif susceptible de provoquer des maladies qui n'étaient pas la drépanocytose au Québec, mais qui ont des conséquences pathologiques souvent très graves. Vous avez une autre situation que j'illustrerai avec l'exemple des Touaregs Kelkoumer du Mali. Ces Touaregs Kelkoumer, c'est une tribu qui a été fondée par un certain Karidena, qui était un contemporain de Louis XIV, et ils avaient une pratique en matière de mariage extrêmement stricte. Ils étaient totalement endogames. Autrement dit, ils ne se mariaient pas avec des gens d'autres tribus ou d'autres ethnies. Et malgré cette pratique, ils essayaient d'éviter les mariages les plus proches. Les mariages entre cousins connus étaient évités. Et alors, quel est le résultat? Quand on a fait une étude chez eux il y a maintenant une trentaine d'années, eh bien, ils n'avaient pas de maladie génétique. Et ils n'en avaient pas, certainement, parce que dans les premiers temps de l'établissement de la tribu, ils avaient éliminé par la consanguinité tous ces gènes détériorants, et malgré tout, ils avaient réussi à survivre. Donc, quelque part, la consanguinité les avait purifiés des maladies génétiques.
Par la sélection naturelle.
Par la sélection naturelle qui avait éliminé les gènes détériorants. Donc, ce qui est capital là-dedans, c'est deux faits. C'est le fait qu'une population soit endogame ou pas, si elle est endogame, et si un fondateur amène un gène détériorant récessif dans la population, eh bien, il y a le risque d'avoir une haute fréquence de la maladie en question, comme par exemple l'albinisme dans une île du Panama, qui a eu un petit nombre de fondateurs, qui est monté à des fréquences, je crois, de l'ordre de 15%, ce qui n'est jamais vu dans aucune population humaine, mais à cause de l'histoire particulière de cette population endogame.
La connaissance des territoires, c'est important aussi. Professeur Arnold Munich, est-ce que c'est quelque chose que vous percevez dans vos consultations à l'hôpital Necker, le fait par exemple qu'en fonction des origines du patient ou des familles qui viennent consulter, eh bien on retrouve des risques génétiques spécifiques? Tout à l'heure, on parlait de la drépanocytose. Est-ce que vous avez d'autres exemples?
Oui, merci à M. Langanet de cette magnifique évocation. En l'écoutant, je pensais au livre de la Genèse, à Abraham et sa femme Sarah, cousin germain. Et toute la dynastie des patriarches sont des mariages oncle, nièce, cousin germain, etc. Donc, par conséquent, j'approuve pleinement ce qui a été dit. Il n'y avait pas véritablement de préoccupation de s'éloigner de ses apparentés en se mariant. Toutefois, dans le Coran, on trouve un sourate du prophète qui recommande d'aller chercher ses gènes hors de la famille. Mmh. Donc, cette observation a été faite par les Arabes avec beaucoup de sagacité. C'était des grands médecins, hein, très grands médecins. Ils ont observé qu'il valait mieux s'écarter de sa famille quand on allait chercher un compagnon, une femme.
Je reviens sur ma question concrète, santé des personnes que vous prenez en consultation. Vous observez quel type justement de pathologie ou d'anomalie particulière par rapport à certains groupes de population?
Prenons l'exemple des Siciliens ou des Sardes. Ça a été le problème de la thalassémie qui a décimé la Sardaigne et la Sicile. Et il y a eu des programmes magnifiques de dépistage des porteurs sains dans ces deux pays. Même chose au Moyen-Orient, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite. Plus proche de nous, en Europe de l'Est, vous savez que les persécutions, les ghettos ont conduit les Juifs à être enfermés et à se marier exclusivement entre eux. Et ça aboutit finalement à l'émergence d'une maladie épouvantable qui s'appelle la maladie des Saxes, maladie génétique récessive. Et beaucoup de Juifs ashkénazes, donc de l'Europe de l'Est, qu'on retrouve maintenant en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, en Israël, sont porteurs sains, sans le savoir, du gène de la maladie des Saxes. Et si deux apparentés se marient et qui sont porteurs l'un et l'autre de cette sale maladie de Tay-Sachs, ça donne une encéphalopathie épileptique épouvantable. Alors, dans les populations les plus riches, on fait le dépistage de ces maladies les plus fréquentes. Les hémoglobinopathies pour la thalassémie en Europe du Sud, la maladie de Tay-Sachs et d'autres maladies des Juifs ashkénazes en Amérique du Nord, en Israël. Et malheureusement, ça ne se fait pas en France. Je répète mon regret que la loi de bioéthique n'ait pas saisi cette opportunité de nous aligner en termes de préoccupations de santé publique avec d'autres pays européens pour lesquels ce qu'on appelle le carrier screening, le dépistage des porteurs sains, est non seulement autorisé, mais il est recommandé chez les apparentés et surtout dans certaines catégories de population ou d'ethnie.
Dans certains groupes de population, vous retrouvez tous les deux après un premier témoignage.
Nouakchott, 103.3 FM.
En Mauritanie, à Ouadibou précisément, on vous retrouve, Mariam, bonjour. Mariam, bonjour. Vous êtes avec nous?
Oui, je suis là, bonjour.
Alors Mariam, vous êtes mariée à votre cousin germain, c'est bien cela? Et vous êtes porteuse vous-même d'une maladie génétique, expliquez-nous.
Effectivement, je suis mariée à mon cousin Germain et je suis drépanocytaire.
Oui.
Et lui aussi, il a les traces de la drépano. C'est ce qui fait que j'ai un garçon qui est né de cette union, qui est drépanocytaire aussi.
Et dans votre famille, il y avait d'autres personnes qui avaient développé la maladie aussi?
Effectivement, mes parents sont drépanocytaires. Mmh. Et c'est ce qui fait que moi, je suis FSCDV et il est AS. Mmh. Et c'est ce qui a, avec le mariage consanguin, c'est ce qui a fait qu'on a eu, à partir de cette union, il y a eu des enfants drépanons qui sont nés dans cette union.
Vous avez 3 enfants au total, c'est ça? Et un fils qui a développé la maladie, c'est ça?
Effectivement.
Est-ce que vous saviez, en épousant l'un des membres de votre famille, votre cousin, qu'il y avait des risques pour la santé des enfants?
Je le savais, j'étais consciente de cela. Mais là, quand on épouse quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille, c'est mal vu. Mmh. Et c'est cette raison qui nous pousse à nous marier entre nous.
La pression sociale, là, la pression sociale, voilà. Mais cet époux, vous l'avez choisi, Mariam? Ou la famille vous l'a présenté? Comment ça s'est passé?
Je l'ai choisi, mais bon, je l'ai choisi à la pression familiale. Donc je l'ai choisi aussi. Mmh. Donc c'est ce qui fait que, avec cette consanguinité, il y a des enfants drépanons qui naissent de cela.
Alors, se marier dans la famille, c'est la tradition, hein, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants, vous, aujourd'hui? Vous leur en parlez, justement, de cette affaire? Parce que là, la famille est constituée, vous êtes avec votre époux, il y a les enfants. Est-ce que pour vos enfants, vous avez envie un petit peu de changer les choses et qu'ils aillent plus loin que la maison, plus loin que la sphère familiale pour éviter ce risque de maladie?
C'est la raison pour laquelle j'ai préféré témoigner.
Ouais.
C'est juste avoir un avenir, je ne dirais pas radieux, mais je voudrais un avenir meilleur pour mes enfants qui ne sont pas celles de la maladie. Vous savez tous que la drépanocytose, c'est une maladie et elle n'est pas facile à...
Elle est très lourde, il y a les douleurs, il y a la fatigue, il y a tout ce que ça peut bloquer dans le développement d'un enfant qui ne se retrouve pas à pouvoir jouer avec tous les autres, à grandir comme les autres. C'est quelque chose de très difficile, ça coûte très cher aussi à la famille en termes de prise en charge. Qu'est-ce qu'en pense le reste de la famille, justement, que vous soyez là un petit peu pour changer les choses parce que vous adorez vos enfants et vous avez envie qu'ils soient en bonne santé?
C'est tabou. Chez nous, on n'en parle pas trop. C'est des choses qu'on ne parle pas. C'est tabou pour nous. Le mariage, ça se fait entre cousins et cousines.
Mais vous êtes décidée, Mariam, à tenir bon?
Pardon?
Vous êtes décidée à tenir bon sur cette question? Vous ne vous laisserez pas influencer?
Je l'espère de tout cœur. J'espère que mes enfants n'auront pas à subir ce que moi j'ai subi. J'ai même été suivie par le prof, à l'hôpital Necker par le professeur Giraud, qui n'est plus
spécialiste de la drépanocytose.
Voilà.
Bon, on vous remercie beaucoup. Un très beau témoignage, Mariam. Merci pour cette détermination. Et vous saluez vos enfants et toute la famille de notre part. Professeur Munich, on a bien entendu aussi qu'il y a cette pression familiale quand on n'a pas les ressources en termes de technologie pour faire un dépistage. Ce n'est pas forcément évident. La solution qu'a trouvée Mariam, c'est essayer de changer un petit peu les choses. Qu'est-ce que vous suggère ce témoignage?
D'abord, beaucoup de respect, beaucoup d'empathie pour Mariam. Je trouve qu'elle s'exprime admirablement. Je voudrais saluer la Mauritanie à travers elle, saluer son témoignage et lui donner 2 éléments d'espoir, si vous permettez. Le premier espoir, il est de l'ordre du diagnostic. Aujourd'hui, on peut déterminer qui est porteur de cette affection pour éviter les récidives dans la famille. J'ai bien entendu, quand elle nous a dit tout à l'heure, c'est mal vu de se marier hors de la famille. C'est mal vu. C'est très fort comme expression. Donc, si on veut respecter ces traditions, et je comprends très très bien, il suffit, avant d'avoir des enfants, de faire un test. Nous militons beaucoup pour la formation à la génétique et au conseil génétique de l'Afrique subsaharienne.
Ça se fait dans certains pays d'Afrique centrale. Je me souviens qu'on avait eu des auditeurs, notamment au Cameroun ou au Gabon, où ils disaient que c'était quasi systématique.
Oui, on a des collègues médecins originaires de Côte d'Ivoire ou du Bénin, etc., qui se donnent un mal fou pour essayer de passer ces informations et de mettre en place des structures de diagnostic. Donc, qu'on offre, que les États offrent ces possibilités ou que, ne les offrant pas, Mariam souhaite avoir l'information, elle peut l'avoir. Elle peut l'avoir en s'adressant aux quelques centres qui existent ou en Europe à l'occasion d'un déplacement. Ça, c'est le premier élément d'espoir, c'est que oui, on pourra, pour ces enfants, éviter la récidive de la maladie si elle se donne la peine de les faire consulter. Le deuxième élément d'espoir, c'est le traitement de la drépanocytose. Et vous savez que Marina Cavazzana, qui est une héroïne, une pionnière de la thérapie génique de la drépanocytose, a guéri par le transfert de gènes des enfants atteints de drépanocytose. Et c'est toujours la même mutation, donc un seul et même vecteur permet de guérir toutes les drépanocytoses. Donc l'autre élément d'espoir, c'est que là encore, si on s'en donne les moyens, on pourrait envisager pour les patients d'Afrique une thérapie génique de cette drépanocytose en introduisant le gène normal de l'hémoglobine dans les cellules souches de la moelle. Donc deux éléments, on n'est pas les bras croisés, la fatalité n'existe pas.
Les familles, par contre, les moyens manquent souvent. Hein.
Les moyens, mais je pense que s'il y a une volonté, il y a un chemin. Mmh. S'il y a une, bon, nous formons des conseillers génétiques, des généticiens pour l'Afrique de l'Ouest. Ils sont parfaitement formés, ils travaillent admirablement en France. Et je crois qu'il faut réunir la volonté d'implanter au minimum le conseil génétique en Afrique. Peut-être pas dans toutes les villes, mais dans les grands centres.
Dans les grands pôles. André Langanet, on vous retrouve dans le cas de Mariam, tradition de l'union entre cousins. Hein, on dit que c'est vrai dans beaucoup d'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'on connaît les fondements sur lesquels s'appuient ces coutumes ?
Oui, alors il y a des fondements qui sont souvent des fondements économiques. Il y a un facteur, par exemple, qui a eu une influence certaine dans ce type de foi, c'est cette coutume du prix de la fiancée, ce qu'on appelle en Afrique de l'Ouest dot, bien que ce soit le contraire de ce qu'on appelle une dot en Europe. Mmh. Donc ce prix de la fiancée, il est extrêmement variable selon les ethnies, mais dans certaines, il peut être extrêmement élevé. La conséquence de cela, c'est que la perspective d'avoir à faire un mariage dans une famille est une véritable catastrophe parce que toutes les économies de tous les membres de la famille vont y passer. Alors, un des remèdes qui est souvent pris à cette situation consiste à avoir des familles qui ont des traditions d'échange de conjoints. Qui fait que si on peut soit se faire des rabais, soit considérer qu'il y a des investissements et des retours, je te donne ma fille pour épouser ton fils, et puis après tu me donneras la fille de ton frère pour épouser le fils du mien.
Donc on va dire que c'est par pragmatisme, hein, pour ne pas dire autre chose. Pour éviter de juger, on va dire par pragmatisme.
Voilà, je ne juge pas du tout, mais il est certain que c'est l'inflation sur les montants du prix de la fiancée a été quelque chose qui, dans certains cas, a pu aggraver le potentiel de consanguinité dans les mariages, même quand ces mariages étaient exogames. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que pour la génétique, que les gènes arrivent par les hommes ou par les femmes, pour des gènes comme la drépanocytose, ça n'a aucune importance. Mais dans la pratique, on fait aussi les mariages en fonction du fait qu'on est dans une société où, par exemple, on va permettre les mariages avec la fille du frère du père, hein, comme chez les Peuls ou chez d'autres sociétés qui pratiquent ces mariages. Et puis dans d'autres, on va strictement interdire ces mariages, comme chez les Malinqués. Mais on interdit les mariages avec la fille du frère du père, mais on va favoriser le mariage avec la fille du frère de la mère, ce qui est, pour le généticien, la même chose et comporte le même risque de faire apparaître un gène détériorant s'il y en a dans la famille. Mais là, je voudrais quand même un petit peu rassurer les consanguins. Je voudrais leur dire deux choses qui ne sont absolument pas en contradiction avec tout ce qu'Arnon Mudik a dit sur la nécessité d'arriver à faire des dépistages et de prévenir les risques de naissance d'enfants atteints dans les mariages consanguins, mais aussi parfois dans d'autres mariages. Parce que si on est dans une petite population très endogame, un petit village fermé, qui a eu un nombre limité de fondateurs, il y a deux situations possibles, par exemple pour la drépanocytose. Soit un des fondateurs portait le trait drépanocytaire et à ce moment-là, la consanguinité risque de faire apparaître des malades. Soit il ne le portait pas. Et je voudrais insister sur ce cas dont on parle peu, mais le fait qu'aucun ancêtre n'ait eu le trait drépanocytaire va faire que le risque d'apparition de la drépanocytose dans la population du village, il sera diminué. Mais ça fera des enfants qui seront en quelque sorte protégés par la consanguinité et que Arnold Munich et ses collègues ne verront jamais, puisque quand on n'est pas malade, on ne va pas voir le médecin. Alors l'effet de la consanguinité, il est très compliqué.
Et ça, le comprend bien autour de cette émission. Je vais vous dire merci. Je vais vous remercier infiniment, André Langanet, pour votre éclairage. Merci aussi, je fais référence à l'histoire, à ce que vous avez fait, ça monte pas hier, mais quand même, pour Sarji Bartman, Soce, c'est ça le vrai nom de cette femme, André Langanet.
Le temps a bien passé.
Oui, mais quand même, il y a des gestes qu'on n'oublie pas. Hein, pour notre auditoire, par exemple, c'était la Vénus Hottentote, femme née en Afrique australe, exhibée comme une attraction humaine en Europe. Et c'est vous, qui, il y a plus de 40 ans, avez fait retirer le moulage, les ossements de cette femme, son squelette, de la galerie publique du Musée de l'Homme pour être restitué à sa terre sud-africaine. Alors pour ça, on vous dit merci. C'était en 2002 et on vous salue. Et professeur Munich, vous restez avec nous. On va se retrouver juste après une petite pause musicale. Amy Winehouse, Mark Ronson, Valérie. Priorité santé sur RFI, deuxième partie de cette émission consacrée aux conséquences de la consanguinité pour la santé. Toujours en compagnie du professeur Arnold Munich, pédiatre généticien à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, président de la fondation Imagine. Et on va partir pour Conakry pour la Guinée.
Conakry, 89.9 FM.
Avec en ligne avec nous Daouda. Daouda, bonjour.
Bonjour Karine.
Alors, Daouda, vous vouliez justement parler, vous aussi, de cette question de la consanguinité. Et vous avez une explication sur ce phénomène dans votre région. Qu'est-ce que c'est, cette explication?
D'accord. En fait, c'est une pratique que les gens sont habitués à le faire. Tout le monde voit ça normal. Et le mariage entre cousine et cousin, les gens le font pour une question de sécurité des deux personnes dans son mariage. Et même quand je regarde dans ma propre famille, mon grand-père et ma grand-mère sont des cousins. Moi, personnellement, je ne suis pas concerné parce que ça n'a pas été le cas pour moi. J'avais eu la chance de sortir de la famille. Mais quand je regarde mon entourage, mes beaucoup de mes frères se sont mariés comme ça, entre cousins et cousines. Et hier aussi, j'ai fait une petite enquête dans ma concession ici. Presque 80% de mes voisins ici sont... C'est des mariages consanguins.
Daouda, je vous coupe juste un instant. Vous, si vous avez choisi de vous marier en dehors de la famille, est-ce qu'il a fallu convaincre le reste, les autres? Ils voulaient vous marier en famille? C'est un choix personnel? Comment ça s'est passé?
Oui, oui, ils voulaient me marier en famille, mais je n'avais pas accepté. J'ai fait beaucoup d'actions pour ne pas accepter. Mais aussi, ce n'est pas parce que je parle. La consanguinité allait causer des problèmes. C'était juste mon vœu, je voulais sortir.
C'était un vœu personnel, vous n'aviez pas conscience des risques pour la santé, par exemple?
Non, je n'avais pas conscience. Les gens ne savent pas que ça a des risques, sinon ils peuvent éviter ça.
Les gens ne sont pas informés autour de vous, hein. Ils ignorent complètement, ils disent c'est la tradition, c'est comme ça, mais ils ne savent pas qu'il peut y avoir un enfant handicapé dans la famille, il peut y avoir un bébé qui va mourir un petit peu tôt parce qu'il va avoir une maladie, ou un autre qui va avoir un handicap, on ne sait pas ça.
Oui, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Même moi, quand j'ai vu l'information, j'ai essayé de chercher, après je me suis dit, c'est intéressant.
En tout cas, le bébé, il est en pleine forme et il pleure bien. En tout cas, lui, il se porte très bien. Daouda, est-ce que ça vous a étonné d'ailleurs quand vous avez découvert ce sujet de la consanguinité, que les gens ne soient pas au courant, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est très important de prendre soin de ses enfants, c'est très important d'être averti sur sa santé. Vous en avez pensé quoi, justement, ce manque d'information?
Vous me demandez?
Oui, je vous demande, vous en avez pensé quoi? Vous pensez que les anciens sont au courant des problèmes? Les médecins n'en parlent pas non plus dans les émissions d'actualité santé en Guinée?
Moi, j'ai entendu parler de ça. Même si tu parles à l'hôpital, les médecins, généralement, ils ne cherchent pas la cause de la maladie. Ils soignent juste la maladie. Si tu as une maladie, ils soignent la maladie, mais ils ne cherchent pas la cause de la maladie. Voilà un peu le problème. Les médecins n'en parlent pas.
On va dire que c'est une démarche complètement différente. Vous avez une question, Daouda, à poser à notre invité, le professeur Arnold Munich, justement lui, qui parle avec les familles, qui parle avec les parents, qui informe sur les risques éventuels. Peut-être aussi sur, professeur Munich, cette vision différente, informer ou pas les populations?
Oui, au fait, ma question sur ce sujet, quelles sont les conséquences? Et à quelle dimension, c'est-à-dire à quel niveau on peut ne plus être à risque de ces âges, des maladies concernant les unions?
Je comprends bien, c'est le degré de consanguinité. On dit le premier degré, c'est parents-enfants. Ensuite, il y a le deuxième degré, ça va être par exemple avec les nièces. Et puis le troisième degré, ce sont les cousins germains. Professeur Arnold Munich, est-ce que vous pouvez répondre à Daouda sur ce point?
Ben oui, bien sûr. Le mariage entre cousins germains expose au risque d'épouser un conjoint porteur, quand on est porteur soi-même, un risque de 15%. Si c'est un degré de plus, on divise par deux. On passe de 15 à 7. Chaque fois qu'il y a un degré de parenté de plus qui éloigne du conjoint, on divise de moitié, on divise par deux le risque. Donc entre cousins germains, c'est 15%. Et chaque fois qu'on franchit une étape, on divise par deux. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut bien dire que pour l'opinion, c'est compliqué à comprendre. Parce que ce que disent toujours les familles, c'est « mais il n'y a pas de ça chez nous, il n'y a jamais eu de malade dans notre famille ». Et du reste, dans l'exemple de Daouda, que je salue, comme je salue la Guinée-Conakry, c'est intéressant parce que son grand-père et sa grand-mère, ils étaient des cousins et ils n'ont pas eu de malade. Mm-hmm. Et ben voilà.
C'est ce qu'il dit souvent. C'est ce qu'il se dit souvent. Il n'y a pas eu de malade, je ne vois pas pourquoi il y en aurait plus tard.
Voilà pourquoi. Il nous raconte des histoires, ce médecin. C'est pas vrai. Moi, j'ai épousé ma cousine et j'ai jamais eu de problème. Eh bien, effectivement, vous l'avez compris, c'est pas parce qu'on épouse sa cousine qu'elle est forcément porteuse de la même variation que soi. Et à supposer qu'elle le soit, ça ne veut pas dire que l'enfant sera malade, puisqu'il sera malade une fois sur quatre. Et 75% des cas, l'enfant sera sain. Mais ça ne retire rien au fait que le risque est là. Le risque est là.
Et pourtant, je vais vous dire, nos auditeurs sont très intéressés par ces questions d'hérédité parce que pratiquement systématiquement, quand on parle que ce soit du diabète, de l'hypertension, des maladies cardiaques, il y a toujours cette question qui revient. Est-ce que c'est héréditaire? Il y en a dans ma famille, mon grand-oncle en a, porte cette maladie, ma tante souffre de diabète. Est-ce que c'est héréditaire? Cette question de l'hérédité, pourtant, elle tracasse vraiment les gens.
Alors, je vous réponds, merci de la question, parce que ces maladies communes que vous avez citées, le diabète, l'hypertension artérielle, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez cité encore, c'est des maladies qui ne sont pas monogéniques. Donc, l'impact de la consanguinité sur une maladie monogénique est celle qu'on a discutée aujourd'hui. Pour des maladies communes qui résultent, au pire, de l'intervention de plusieurs gènes, le risque n'est pas du tout le même. Donc, le problème, ce n'est pas tellement le diabète, l'hypertension, qui pourrait être accru par la consanguinité. C'est plutôt les habitudes, l'hygiène alimentaire et les habitudes nutritionnelles. Mais ce n'est pas la consanguinité qui est responsable du diabète ou de l'hypertension artérielle. Ce qui impacte les maladies, la consanguinité, c'est essentiellement les maladies qui résultent de l'effet d'un seul gène. Le diabète, l'hypertension résultent de l'effet, au mieux, de plusieurs gènes. Par conséquent, ce n'est pas du tout dans le même champ. La consanguinité impacte les maladies résultant de l'effet d'un seul gène, la myopathie, la mucoviscidose, la drépanocytose, toutes ces maladies, il y en a un petit paquet de 5 à 10 qui sont fréquentes en population générale, et puis d'autres fréquentes dans certaines populations particulières. Et à mon avis, c'est celle-là qu'il faut tester. On ne peut pas faire un check-up complet de tous les caractères génétiques de tout un chacun.
Professeur Munich, je vous interromps parce qu'il nous reste 2 minutes seulement pour échanger. Nafissa voulait nous joindre. Hélas, on n'a pas le temps de lui donner la parole, mais je voulais quand même relayer sa question. Elle s'interroge parce qu'elle aussi, il y a énormément de mariages entre cousins dans sa famille au Sénégal. C'est sa grand-mère qui orchestre le tout. Elle marie, la marieuse, comme il y a dans beaucoup d'autres cultures. Et elle a constaté qu'il y avait certains retards de développement mental dans la famille. Et elle s'interroge sur ce fait. Professeur Munich, est-ce que c'est quelque chose d'avéré aussi, qu'on peut avoir des retards si bien sur la croissance physique que sur la croissance mentale des enfants concernés?
Merci.
Hélas, on a 35 secondes.
Mais oui, et ben voilà, il y a 1000 gènes de retard des acquisitions intellectuelles. 1000, vous vous rendez compte? Sur les 30 000, il y en a 1000.
C'est énorme.
Regarde, c'est énorme. La probabilité que les parents consanguins soient porteurs sains d'un de ces 1000 gènes sur 30 000, elle est énorme. Il y a un gène de drépanocytose. Il y a 1000 gènes de retard intellectuel ou de retard de croissance naturopondérale. C'est dire combien c'est important que les États se saisissent enfin du problème de la consanguinité, au moins pour informer. Et lorsqu'il y a un premier cas dans la famille, de tout faire pour reconnaître la cause de ce premier cas et l'identifier. C'est tout mon combat pour l'Afrique du Nord, par exemple.
Donc en parler avant, contrairement à ce qui était dit tout à l'heure, et ne pas simplement envisager le traitement après. Il faut aussi s'y intéresser avant. C'était passionnant. Je pense qu'on devra faire une deuxième émission sur ce sujet, professeur Arnold Munich. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes pédiatre généticien à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, président de l'Institut de la Fondation Imagine.
RFI.
L'activité physique, c'est bon pour la santé. On en parle tout de suite dans Priorité Santé, bien sûr. On vous retrouve, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous êtes médecin du sport aujourd'hui. Vous allez nous parler d'un phénomène physiologique systématique, hein, tout à fait normal quand on fait du sport, c'est la transpiration. Tout le monde connaît, sans savoir forcément de quoi il s'agit précisément, la transpiration.
Bon, la transpiration, bien sûr, c'est un liquide. C'est un liquide, c'est un mélange d'eau, de sel et de petites quantités d'électrolytes, c'est-à-dire des ions, qui est sécrété directement à la surface de la peau. Alors, c'est les glandes sudoripares qui permettent de sécréter ça. Et en fait, quel est l'intérêt lorsqu'on fait du sport? Eh bien, c'est que lorsque cette sueur va s'évaporer, la température du corps va diminuer. C'est donc un système de régulation de la température. Alors, comme n'importe quelle machine, le corps va produire de la chaleur, et plus particulièrement lorsqu'on va faire du sport, parce qu'on va faire une contraction musculaire, cela va créer de la chaleur, et il va falloir rafraîchir ce corps, évidemment, et ça, c'est la transpiration qui va permettre de le faire. Alors pour ça, il y a des vaisseaux sanguins qui sont à la surface de la peau, qui vont se dilater, on va augmenter le flux sanguin, et on va augmenter justement l'apport de sang à ces fameuses glandes sudoripares, qui produisent ensuite la sueur. Et la chaleur va se dissiper dans l'air. Alors comment ça se passe? Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que le passage de l'état liquide de la sueur à l'état gazeux, eh bien, va créer cette évacuation de chaleur en consommant la chaleur du corps. C'est vraiment l'évaporation qui est le plus important. C'est le même principe que, vous savez, les vagues de chaleur que l'on a, que l'on peut observer sur les routes par le soleil l'été. Alors, on pourrait dire que rien ne sert de suer, il faut évaporer. Hein.
D'ailleurs, on commence avec un petit hommage à Jean de La Fontaine. Ça va être comme ça, je pense, tout au long de cette chronique. On a l'impression que certaines personnes suent davantage que d'autres. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Alors, oui, on peut l'expliquer par plusieurs phénomènes. D'abord, effectivement, ce qui est important, c'est que le débit sudoral est très variable en fonction des personnes. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que naturellement, on ne sue pas de la même façon. La deuxième chose, c'est qu'une personne entraînée va suer bien plus qu'une personne qui ne l'est pas, jusqu'à 3 fois plus. Ça, c'est vraiment significatif. Et surtout, dès le début de l'espoir. Donc, une personne entraînée sue plus et sue très tôt. Donc, l'idée reçue, c'est que cette sueur, c'est pas une mauvaise chose, c'est au contraire même une bonne chose, puisque ça permet une bonne adaptation à la chaleur. Et puis, bien sûr, l'environnement va faire varier cette sudation, c'est-à-dire selon la température, selon, bien sûr, l'humidité, selon l'intensité de l'exercice et le niveau d'acclimatation du sujet à la chaleur, eh bien, bien sûr, la sueur sera plus ou moins importante. Et donc, c'est ce qui, tout cela qui peut faire varier, évidemment, le débit sudoral.
Alors, pour éviter les odeurs désagréables quand on fait du sport, on pense à mettre de l'antitranspirant, on pense que c'est la solution. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Sen ?
Les antitranspirants, c'est pas une très bonne idée. C'est pas une très bonne idée parce que leur effet, normalement, c'est de bloquer les pores. Alors, bon, d'abord, c'est pas très efficace. Il faut dire que ça n'a pas une efficacité gigantesque. Et puis surtout, ça serait contre-productif parce qu'on vient de l'expliquer. Le but de la sueur, c'est quand même de réguler la température corporelle. Et donc, si on bloque cette sueur dans l'absolu, eh bien, ça serait pas une bonne chose. En fait, ce qu'on veut rechercher, ou ce qu'on recherche quand on utilise ces antitranspirants, c'est bien sûr la mauvaise odeur. C'est ça qui doit être chassé. Et ça, ce sont les bactéries qui sont responsables de ça. Alors, lorsqu'elles consomment en fait notre sueur, eh bien, ce qui se passe, c'est que ces bactéries produisent un composé chimique odorant qui est responsable justement de cette odeur corporelle et ce que l'on appelle la mauvaise odeur. Alors, plus longtemps on laisse ces bactéries consommer la sueur, et puis plus l'odeur devient évidemment forte. Le bon réflexe, c'est donc de prendre une douche. De prendre une douche
non.
après le sport.
Extraordinaire.
Mais la séance, mais pas immédiatement après la séance. Il faut laisser quand même, la séance ne se termine pas, il ne faut pas prendre la douche immédiatement après. Mm-hmm. Il faut attendre quand même 15-20 minutes. En fait, laisser diminuer le rythme cardiaque et puis faire des étirements, enfin avoir ce retour au calme. Et puis quand le corps est refroidi, eh bien à ce moment-là, on prend cette douche et on peut appliquer un déodorant.
Mais pas antitranspirant.
Et pas antitranspirant, parce que le déodorant, eh bien, est un antiseptique, donc élimine les bactéries à l'origine des mauvaises odeurs corporelles et ajoute quelquefois quelques parfums, ce qui peut être tout à fait bien. Donc voilà, voilà ce que l'on peut dire.
Merci beaucoup. Et vous nous avez privé de la petite phrase de fin, mais c'est pas grave. On la retrouvera la prochaine fois avec vous, docteur Sen, pour poursuivre cet échange. Votre blog, jeanmarcsen.org, tout attaché et en minuscule. À très bientôt. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui fabrique, réalise votre émission. Ophélia Sen, Louise Calédec, Olivier Roux et Didier Chérouse. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo.
Autour de la question.